But now we come to a period that I call the battle for identity.
Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah.
D'abord, un grand merci à Marie-Josée Delvolgo, à Roland Gori, à Elsa Godard de nous avoir réunis ce matin. Et merci à Claude qui a bien voulu me laisser prendre la parole pour vous exposer en quelques mots ce que nous avons fait dans cet article intitulé « Menaces sur l'intime et construction de la subjectivité ». Et un certain nombre de réflexions que nous en tirons depuis. Alors, dans cet article, ce que nous avons voulu faire, c'est mêler nos deux expériences, celle du soignant et celle de l'enseignant, celle du psychanalyste et celle du philosophe, afin de mieux comprendre ce que les technologies du numérique et leur usage produisent comme effet sur la construction de la subjectivité de nos publics, c'est-à-dire les enfants et les adolescents. Nous avons ainsi successivement réfléchi d'abord aux effets de cette manie qui conduit de très nombreux parents à photographier ou à filmer sous tous les angles, sous toutes les coutures et parfois sans leur consentement leurs enfants. Ensuite, nous nous sommes posé un certain nombre de questions pour savoir finalement est-ce que toutes ces technologies destinés à protéger les petits en les surveillant. Est-ce qu'il s'agissait réellement de ça ou bien plutôt de les protéger dans le but de les surveiller en réalité? Il y a un certain nombre de problèmes que cette surveillance pose, ainsi que les conséquences de ces pulsions d'emprise sur la construction de la subjectivité. Ensuite encore, les effets de l'enfermement dans les écrans, de ce qu'on reconnaît comme ce que reconnaît l'expression « être seul avec les autres », et quels sont les manques, quels sont les problèmes, les limites que cela pose pour pouvoir associer pulsions et désirs aux compromis indispensables à la vie en société. Enfin, notre étude abordait la grande question des intermédiations algorithmiques et leur effet sur la subjectivité, comment peut se déployer cet espace-temps qu'est l'intime et quelles sont les souffrances et les carences que ces difficultés produisent. Donc pour nous, l'enjeu était de mettre en lumière l'un des nombreux paradoxes de notre époque, cette époque qui est en même temps hyper individualiste et techno-fascisante, pour reprendre l'expression de Roland Gori. C'est-à-dire, alors que la publicité et le néo-management ne cessent de nous marteler cette injonction qu'il nous faut devenir nous-mêmes, qu'il faut libérer notre plein potentiel, dans le même temps, la prévalence des intérêts économiques et l'idéologie de la toute-puissance de la technique prive le sujet des deux éléments qui sont nécessaires à sa construction, qui sont d'un côté le temps et de l'autre les différences structurantes, moi et l'autre, montré, caché, public, privé, permis, interdit, etc. Pour partir d'un exemple que je considère comme symptomatique, je voudrais vous parler du groupe d'élaboration des projets de programme, le GEPP, pour la discipline qui est la mienne, la philosophie, qui est en train de subir une mutation formelle. Dans son nouveau programme de terminale, le GEPP propose de supprimer un certain nombre de notions afin d'alléger ce programme. Et ces notions sont entre autres les suivantes. Le travail, la conscience, l'inconscient et le bonheur. Donc on a là l'illustration parfaite d'une idéologie scolaire au service d'une idéologie politique et économique, supprimant du champ de la réflexion l'étude des fins et des structures de la subjectivité. Autrement dit, en même temps qu'on nous dit « soyez vous-même et soyez heureux », on nous prive de la possibilité de penser qui suis-je et qu'est-ce que le bonheur. Le fait qui a attiré mon attention dans toute cette affaire, c'est que parmi les éminents spécialistes chargés de l'élaboration de ces idées, de ces programmes, certains sont de très grands spécialistes de Descartes. La pensée de Descartes, qui marque, comme vous le savez, un tournant majeur dans l'histoire des idées, le tournant de la modernité, consiste en ceci que d'un côté il affirme la vérité première du cogito, donc la possibilité de reconstruire l'édifice de la pensée à partir de soi, je pense donc je suis, comme vérité première, et non plus à partir de Dieu, comme cela a pu être le cas chez les penseurs des époques antérieures. De cette façon, la subjectivité de la personne est mise au premier plan. Je ne vais pas redire ce que Elsa Godard nous a brillamment exposé tout à l'heure. Dans le même temps, d'un autre côté, Descartes conçoit une connaissance du monde qui est bâtie sur le modèle des mathématiques et de la physique mécaniste de Galilée. D'accord ? C'est ce qui va donner, par exemple, sa fameuse thèse du corps-machine, de l'animal-machine. Et par conséquent, on pourrait considérer Descartes comme l'un des fondateurs de notre vision du monde actuel, c'est-à-dire d'un côté un moi tout-puissant et de l'autre le libre usage que fait ce moi d'un monde composé de choses sans âme. Mais c'est là une simplification et un dévoiement de la pensée de Descartes, ne serait-ce que pour la raison suivante. Dans la quatrième partie du discours de la méthode, après avoir affirmé la certitude du cogito, puis la définition de celui-ci comme chose pensante, il écrit ceci, je vous cite. « Ensuite de quoi, faisant réflexion sur ce que je doutais, et que par conséquent mon être n'était pas tout parfait, je m'avisai de chercher d'où j'avais appris à penser à quelque chose de plus parfait que je n'étais, et je connus évidemment que ce devait être de quelque nature qui fût en effet plus parfaite. » Autrement dit, quand Descartes cherche à se connaître lui-même, il trouve au plus profond de lui-même une fêlure, un manque, une impossibilité logique à fonder à partir du soi seul l'existence du monde, mais cette impossibilité n'est pas seulement logique, elle est également éthique. Et je l'interprète comme une inquiétude fondamentale ou un besoin de secours pour parler comme Freud. Je ne suis pas autosuffisant, je ne peux exister seul. Ainsi, la subjectivité se construit dans un dialogue permanent avec l'altérité. Ce qui implique que le moi ne se confond pas avec l'autre, que le moi soit distinct de l'autre, qu'il y ait intériorité et extériorité comme deux pôles dans lesquels il peut se construire. Et qu'en même temps, ces dimensions intérieures et extérieures puissent, à quelques moments, rentrer en contact. Par exemple, il faut que le malade puisse accepter de se laisser soigner, ou que l'enfant accepte de se laisser éduquer, ou le citoyen gouverner. Si ces trois tâches, décrétées impossibles par Freud, sont également les plus nécessaires, les plus humaines, elles sont impossibles et nécessaires parce qu'elles impliquent que autrui fasse irruption dans le champ du moi pour lui apporter ce qu'il ne peut trouver seul. Mais cette intrusion de l'autre en moi peut être vécue dans certains cas comme une violence. Dans certains cas, elle est réellement violente et peut donc faire l'objet d'une résistance. Ainsi, ce n'est nullement un hasard si dans notre hypermodernité, selon le terme de Lipovetsky, les métiers du soin et de l'éducation, mais également les métiers de gouvernement, sont sévèrement attaqués. En ce qui concerne les gouvernements, leur tentation est grande de se réfugier derrière une gouvernance, comme Roland également l'a très bien montré dans ses derniers ouvrages. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, la technicité croissante de notre rapport au monde et aux autres bouleverse les processus de structuration du sujet, qui est mis en difficulté dans sa capacité à distinguer ce qui relève de l'intime et de ce qui n'en relève pas. Il en résulte notamment des phénomènes de fragilité que nous avons décrits dans notre article. Je cite notre article, « Tout semble se passer comme s'il n'avait pu disposer de cet espace-temps qu'est l'intime pour pouvoir s'y confronter avec ce qu'ils pensaient ou voulaient être, comme s'ils n'avaient pu y mettre à l'épreuve de leur propre jugement pour les refuser, les corriger ou les compléter, les images que leur envoyaient les autres. Et c'est vraiment ce flou et cette indistinction entre l'intime et l'altérité que je voudrais prolonger maintenant. Le sujet, à l'ère du numérique, se trouve prisonnier d'une double exigence, à la fois être visible et être puissant. Les réseaux sociaux favorisent ainsi un déversement du soi, invité à dire ce qu'il pense au moment où il le pense, Twitter, à montrer ce qu'il fait, Instagram, et se montrer le faisant, le selfie. Une pratique qui m'interpelle particulièrement est celle qui consiste à prendre en photo systématiquement ce qu'on s'apprête à manger et à le poster sur les réseaux sociaux. Toujours trouvé ça étonnant, au restaurant, vous en voyez sûrement des gens qui prennent en photo leur plat.
C'est le porn food.
Le porn food, ça s'appelle, exactement, oui, tout à fait. Donc, si le repas est évidemment un phénomène culturel et donc social, le plus souvent sur ces images, les convives qui participent au repas n'apparaissent pas. Seul le plat est au centre de l'image. Autrement dit, voilà comment je l'interprète. Voyez ce que je m'apprête à introduire en moi. Il est évident que dans ces conditions, l'idée d'intimité, conçue comme part de secret, comme intériorité qui ne se laisse pas dévoiler, perd tout sens et toute valeur. Mais en même temps, n'est-ce pas là un signe parfait de cette idéologie de la transparence, chère au puritanisme anglo-saxon ? Si on n'a rien à cacher, pourquoi ne pas tout montrer ? Cette tyrannie de la visibilité doit être comprise à l'aune du rêve hypermoderne de s'affranchir de tout héritage et de construire sa propre identité, de devenir, comme le dit Michel Foucault, entrepreneur de soi-même. Sur Internet, je peux dessiner les contours de mon profil, avec mes centres d'intérêt, mes amis, ma profession, mes images, mes pensées, etc., etc. Et pour ce faire, je n'ai besoin d'absolument personne. Je me prends en photo tout seul. Quelques clics suffisent à m'apporter tout ce dont j'ai besoin, à montrer où je suis, ce que je fais, etc. Comme l'a écrit Éric Sadin dans « La siliconisation du monde » en 2017, l'individu tyran n'a plus besoin de se cogner au réel, il peut même avoir la sensation de le soumettre à un nombre croissant de ses désidérata. Et là-dessus, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etc., ont une armée à leur disposition, une armée qu'ils s'appellent eux-mêmes les évangélistes du net ou évangélistes du web, dont la fonction principale, comme leur nom l'indique, est de transmettre la bonne parole. Quelle est cette bonne parole ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, plus ça ira, plus la technologie se développera, plus le réel se soumettra à vous. Voilà la bonne parole des GAFAM. La semaine dernière, j'entendais ainsi que Facebook ambitionne de devenir le plus grand supermarché de la planète grâce à sa plateforme de communication direct Messenger. D'ores et déjà, voilà ce qu'il est possible de faire sur Facebook. Je peux voir une photo de la mer, d'accord, postée, mettons, par la SNCF. Et en deux ou trois clics, je peux arriver à entrer en communication avec un chatbot, un robot doté d'une voix humaine, imitant la voix humaine, qui va me demander où est-ce que je veux partir et quand. Autrement dit, entre le moment où je reçois l'image, stimulation visuelle, et le moment où je peux satisfaire mon désir, il peut se passer à peine une ou deux minutes, et probablement que plus ça ira, plus ce temps sera amené à décroître. D'autant que l'argent sera automatiquement viré depuis mon compte, sans même que j'aie besoin de rentrer mon code de carte bleue. Et puis, vous le savez probablement, tout cela va encore évoluer avec ce rêve un peu fou d'une monnaie absolument numérique qui n'aura plus aucun lien avec une monnaie réelle. Ainsi, le numérique va nous donner l'illusion, il nous la donne déjà, que l'usager est en parfaite maîtrise, d'accord, et dans une possibilité infinie de création de lui-même. Un système de flatterie vient ensuite répondre à cette bonne image qu'il fournit à ses amis sur Internet. Par exemple, sur Facebook, vous le savez, on ne peut pas disliker quoi que ce soit. On ne peut que liker, c'est-à-dire on ne peut que aimer. Voilà, si votre ami produit un contenu, vous ne pouvez que l'aimer. Là encore, je vais citer Eric Sadin. « Le lien doit être fait avec le rejet récent et massif manifesté à l'égard des institutions, découlant de l'idéologie de la désintermédiation, instituant chaque être comme pouvant à tout instant agir comme bon lui semble, sans subir la loi d'entité potentiellement contraignante ou limitant son droit à l'expressivité. » D'accord ? J'ai récemment publié dans une chronique dans Le Monde une réflexion sur l'absolue liberté d'expression apparente aujourd'hui, qui, selon moi, n'est pas une réelle liberté, mais une indifférenciation de l'expression. Je ne rentrerai pas dans les détails. Par contre, l'effet de tout cela, c'est que je me crée, l'effet de cette illusion dont je parlais à l'instant, c'est que, en tant qu'usager, je me crée ce que j'appellerais un safe space, du nom de ces espaces sécurisants qui ont été inventés sur les campus américains dans les années 60-70. L'idée était la suivante à l'origine. Des personnes opprimées, des femmes, des gays, des noirs, etc., pouvaient se réfugier dans des endroits prévus à cet effet, dans lesquels ils n'étaient pas soumis au harcèlement, aux insultes, aux micro-agressions qu'ils subissaient sur le campus en temps ordinaire. Bon. La magie algorithmique fait que la machine va me conseiller des amis. Elle va me conseiller des gens qui peuvent m'intéresser intellectuellement ou sexuellement. Me conseiller des vidéos ou des produits en fonction de mes goûts, eux-mêmes déduits de mon historique de recherche. Si quelque chose ne me plaît pas là-dedans, je peux le bloquer, le passer. Je peux l'éliminer de mon champ perceptif, je peux faire comme si ça n'existait pas. Autrement dit, je peux vivre, aujourd'hui, dans le déni permanent de la réalité du monde. Dans ces conditions, comment s'étonner que l'éducation, le soin et le gouvernement, qui ne sont rien d'autre que des irruptions du principe de réalité, c'est-à-dire que je ne suis ni omniscient, ni omnipotent, ni autarcique, comment s'étonner qu'ils soient à ce point décriés ? Il est évident que ce safe space dont je parlais à l'instant est une illusion, et ce pour deux raisons. La première est qu'il n'est pas construit par le sujet autonome, mais par des grandes industries créant les interfaces, les outils et les algorithmes, ou encore par d'autres compagnies qui ne sont pas détenteurs des moyens de production, mais qui ont suffisamment d'argent pour acheter le pouvoir de rentrer dans notre historique, de nous espionner, afin de recommander des produits que nous serions susceptibles de désirer, et même plus exactement, pour créer en nous le désir de désirer ces produits. Nous ne devons jamais oublier que l'ensemble de ces outils a été inventé dans un but très simple, celui de gagner de l'argent, et non pas par souci de notre humanité. Plus ces compagnies vont faciliter notre usage du monde, et plus elles vont nous aliéner. La deuxième raison, c'est que le réel, malgré tout, malgré cette illusion du safe space, le réel, lui, ne cesse pas d'exister. Et comme les mêmes réseaux sur lesquels nous nous sentons en sécurité mettent en valeur la parole sans filtre, l'image ou l'information qui fera le buzz, et qui donc sera potentiellement fausse et très probablement violente ou choquante, eh bien ils rendent possible un déversoir de violence que je peux d'autant moins ignorer qu'elle m'est jetée à la face sur mon propre mur. Si je reprends l'exemple du safe space réel, de la pièce, imaginez que vous fuyez une agression et que vous vous retrouvez dans un endroit où on vous a dit que vous pourriez trouver asile et on ne pourra pas venir vous chercher. Vous commencez à baisser votre garde, commencez à souffler un peu, et là, qui voyez-vous confortablement installé sur un canapé ? Votre agresseur lui-même, qui était là à vous attendre pour pouvoir vous jeter son discours haineux en plein visage. Vous êtes d'autant plus agressé que justement vous aviez baissé vos défenses. Vous croyez que ce discours ne pouvait pas pénétrer votre espace, or il l'a fait avec une très grande facilité. Ainsi, voilà ce qui se passe sur Internet. Est-ce que les hommes sont devenus plus violents qu'avant ? Est-ce qu'ils sont devenus plus bêtes ? Est-ce que le monde est devenu plus complexe ? Je crois que tout cela est faux. Par contre, je crois que nous n'avons plus les ressources intérieures pour pouvoir gérer, digérer cette violence et cette complexité, pour pouvoir l'affronter correctement. De fait, sur les campus américains, aujourd'hui, les safe spaces posent un énorme problème, car leur nombre a littéralement explosé. La moindre parole aujourd'hui est vécue potentiellement comme une agression, et tout un chacun se dit opprimé par quelque chose. Vous avez des virilistes qui se disent opprimés par des femmes, vous avez des blancs qui se disent opprimés par des noirs, etc. Chaque personne est potentiellement la victime de quelqu'un d'autre. Ainsi qu'on ne se méprenne pas dans mon propos, je pense qu'il y a des conséquences très positives dans le fait que certains comportements objectivement inacceptables ne soient plus ravalés par le sujet, ne soient plus subis et acceptés comme tels. Le phénomène de libération de la parole des femmes victimes de harcèlement, celui des victimes des prêtres pédophiles, la possibilité d'augmenter le nombre de lanceurs d'alerte, ou ce qu'on a vu il y a quelques semaines, cette jeunesse européenne se mobiliser pour défendre la biodiversité, sont autant d'exemples qu'il y a des usages potentiellement positifs de ces réseaux. Pour autant, il faut être bien conscient que cela va de pair avec une judiciarisation galopante des rapports sociaux, une difficulté de pouvoir dépasser les groupements d'intérêts particuliers pour s'élever au niveau de l'intérêt général. Ou encore, comme je l'ai dit à l'instant, cela laisse ouverte la possibilité de délire, de pseudo-victimisation, que ce soit la féminisation des mœurs, le grand remplacement ou que sais-je encore. Pour résumer et pour conclure, nous faisons face à une idéologie couplée à un ensemble de techniques qui vendent littéralement au sujet la possibilité de s'affranchir de toutes les structures et de trouver dans la technique toutes les aides dont il a besoin sans qu'autrui ait besoin d'intervenir. Il en résulte plusieurs effets, plusieurs symptômes, dont, entre autres, l'indifférenciation entre ce qui est propre à soi et propre à autrui, entre ce qui doit être caché et ce qui doit être montré, entre ce qui me touche et ce qui me violente. Il en résulte, selon moi, une difficulté croissante à exister tout simplement. Merci beaucoup.